La fin des années 20 est pour Aragon une époque charnière. Alors pourquoi, à votre avis, Lionel Follet s'engage-t-il au Parti communiste ?
Je répondrai d'abord qu'Aragon entre au Parti communiste en même temps qu'un certain nombre des surréalistes. C'est un engagement que le groupe choisit.
Oui, alors ça, on est effectivement, mais pas dans le même Parti communiste.
Ça se passe en 1927, effectivement.
Il avait déjà essayé, après le congrès de Tours.
En 1920, oui, une tentative sans lendemain. Oui. Aragon dit lui-même, je suis entré dans ce parti en même temps que mes amis, ils l'ont tous quitté au bout de quelques mois, et moi j'y suis resté. Oui. Et il ajoute, il fallait être fou, enfin, à peu près je glose sa réponse, j'ai eu cette folie et je l'ai maintenue jusqu'au bout. Il ajoute également, et c'est peut-être là qu'il faudrait creuser la réponse, il ajoute « Je suis devenu communiste parce que j'étais écrivain et pas le contraire ». C'est-à-dire qu'il cherche, dans son adhésion au Parti communiste, cette théorie qui va lui permettre de penser le monde, de répondre aux problèmes qu'il...
Donc pour vous, c'est une question de pensée.
C'est une question de pensée, effectivement.
Georges Sebag, si vous voulez bien, on va parler ensemble des derniers moments des rapports entre Aragon et le groupe surréaliste, et peut-être plus précisément Aragon-Breton. Je crois que c'est une rupture qui va être assez difficile et assez déchirante d'une certaine manière. Et en tout cas, c'est une rupture qui va rester là, intacte, jusqu'à la fin. Alors, en 1928, ils écrivent quand même encore un texte ensemble, Breton et Aragon.
En effet, c'est une collaboration surréaliste, hein, au sens fort du mot. Ils écrivent ensemble une sorte de pièce de théâtre qui est en réalité un ciné-feuilleton qui s'intitule « Le trésor des jésuites ». C'est une sorte de revue de fin d'année, parce qu'elle elle était prévue pour être donnée au théâtre de l'Apollo en décembre 1928, et donc pour évoquer des événements de l'année même. Et très vraisemblablement, cette œuvre, si la brouille fatale entre Breton et Aragon n'avait pas eu lieu, ben je pense que cette œuvre, on l'aurait davantage regardée de près.
Alors, le trésor des Jésuites, c'est quoi exactement ?
Eh bien, je crois que c'est un formidable pari sur le temps. Et c'est un peu l'idée essentielle que j'essaie de dégager du surréalisme. En effet, je crois que dans le trésor des Jésuites, il y a, avec désinvolture, mais aussi avec une patience, une précision étonnante, il y a des avancées sur le temps, puisque la pièce, en somme, c'est une pièce très, très, très calculée. Elle se déroule en trois tableaux, mais ces trois tableaux sont menés par les meneurs de revue, que sont deux personnages, l'un s'intitule le temps et l'autre l'éternité. Le temps est symbolisé par la représentation conventionnelle en fait de la mort. Le temps tient une faux. Et l'éternité, elle, c'est une jeune femme en robe blanche, serrant dans ses bras une grande étoile lumineuse. La conversation de l'un et de l'autre nous amène en particulier à révéler l'importance du cinéma pour Breton et Aragon dans leurs très jeunes années, c'est-à-dire lors de leur découverte des ciné-feuilletons, des mystères de New York ou des vampires pendant la guerre même. C'est-à-dire que, et justement, ça va s'apercevoir que le premier tableau traite de la guerre, il traite de l'année 1917, des tranchées, et puis de l'amour, parce que pendant la guerre, une vampe venue du cinéma, à savoir Musidora, a vraiment obnubilé Breton et Aragon, qui ont assisté non seulement à leur film, mais même à une représentation de théâtre de Musidora. Et c'est dans ces conditions que cet amour réel, Breton par exemple a envoyé une lettre à Musidora après qu'il l'ait vu sur scène. Donc, tout cela à cette époque.
Une lettre enflammée.
Une lettre évidemment enflammée. Il doit même, paraît-il, jeter une rose lors de la représentation.
C'est beau.
Eh bien, En 1928, Breton et Aragon non seulement se souviennent, mais vont essayer de séduire Musidora pour qu'elle tienne le rôle principal qui lui est complètement réservé dans le trésor des Jésuites. Et puis, chose tout à fait étonnante, le temps et l'éternité jouant aux cartes, jouant aux dés, jouant aux chiffres, 11 ans après, puisque c'est le rythme de 11 ans qui a été soutenu, 11 ans après, c'est-à-dire en 1939, l'action se poursuit.
Alors donc, troisième tableau.
Le troisième tableau en 1939. C'est un pur tableau d'anticipation, de prophétie.
C'est quoi 1939 en 1928 pour Aragon et Breton?
Eh bien, en 1939, il y a des choses très curieuses. Bon, la psychanalyse va être attaquée en 1939. En fait, elle est déjà attaquée en 1928. Mais quel ordre moral, politique va succéder à l'ordre, disons, religieux, enfin, que symbolisent les jésuites, l'ordre bourgeois? 21 ans, déjà, depuis ce qu'on appelait si drôlement la Grande Guerre. Faut-il regretter les chevaleresques combats des tranchées ou leur préférer les peu glorieuses exterminations immobiles d'aujourd'hui? Voilà la question. On voit que cette annonce prophétique, en effet, c'est une annonce un peu hallucinée sur un état du monde que les surréalistes considèrent comme très, très, très inquiétant.
Alors c'est quand même intéressant, parce que cette vision de 1939 par ces jeunes gens en 28 n'est pas tout à fait fausse. Enfin, ils ont vu qu'il y avait quelque chose. En tout cas, ils ont senti que quelque chose allait se geler et se glacer quelque part.
Oui, j'ai l'impression que Aragon et Breton là ont fait une très belle paire. Je dirais que l'écriture du Trésor des Jésuites, c'est une écriture qui est à la fois très alerte, très calculée. Mais moi, j'y trouve, pour ma part, ici et là, des sortes d'élan, d'automatisme. En somme, il y a, malgré eux, il y a des phrases qui les dépassent. Et en effet, celles qui ont trait à l'avenir, par exemple, sont de celles-là.
Alors, ça va se défaire, évidemment, entre Aragon et Breton, et même assez rapidement.
Oui, c'est-à-dire que de 1928 à 1932, Breton et Aragon ont d'abord ensemble assumé la scission avec un certain nombre de personnes du groupe surréaliste, puisque le second manifeste annonce une rupture brutale avec des amis surréalistes, par exemple comme Robert Desnos.
Mais, oui.
Mais à partir de 1930, comme le surréalisme se fait au nom de la Révolution, la revue porte comme nom le surréalisme au service de la Révolution, eh bien, deux orientations se font jour. Les envoyés du groupe surréaliste à Moscou pour le congrès de Kharkov, à savoir Louis Aragon et Georges Sadoul, eh bien, ces deux envoyés ont, en fait, du point de vue du surréalisme, failli à leur mission, c'est-à-dire les surréalistes voulaient parvenir à s'implanter dans le mouvement communiste. Mais ce qui s'est passé, c'est que le prix à payer a semblé beaucoup trop fort à Breton et à ses amis, alors que j'ai l'impression qu'il semblait possible pour Aragon et Sadoul, ou même pour d'autres à l'époque qui allaient plus ou moins les rejoindre, comme Unique ou Alexandre. Donc, une fraction du groupe surréaliste derrière Aragon était prête effectivement à donner des gages au Parti communiste et à Moscou, ce qui n'a pas été le cas de Breton et de ses amis, comme Éluard. C'est pourquoi à la fin 1930, à l'issue du congrès de Kharkov, puis pendant toute l'année 1931, les rapports entre Breton et Aragon sont devenus plus que flous. Ils ont passé leur temps à se demander si leur position ancienne pouvait encore être tenable.
Voilà. Oui.
Et en 1930, 1932. Début de 1932, s'est produit un incident qui a finalement amené à la rupture. Aragon a été inculpé pour la publication du poème Front Rouge, et ses amis surréalistes ne pouvaient évidemment que le défendre. Ils ont lancé une pétition. Cette pétition n'a pas été bien accueillie par les communistes et par l'humanité, qui a véritablement plus qu'ironiser sur cette pétition. C'est pourquoi Breton a éprouvé le besoin d'une mise au point dans un petit ouvrage édité sous le nom des éditions surréalistes qui s'intitule « Misère de la poésie ». C'est un ouvrage de fond qui met vraiment les points, si j'ose dire, sur les i, concernant les relations entre la poésie et la révolution. Breton montre bien qu'il n'est pas possible que la poésie soit contrôlée par la politique, même si, pour lui, la politique est nécessaire dans l'époque que le groupe surréaliste traverse. C'est pourquoi, dans Misère de la poésie, Breton se permet de faire des attaques très violentes, ce sont en fait pour lui des contre-attaques, contre les amis communistes d'Aragon. La réplique d'Aragon a été instantanée. C'est... Aussitôt que Misère de la poésie est sortie, le lendemain même, un communiqué de l'humanité indiquait que, au fond, il n'y avait, pour ainsi dire, plus de relations entre Aragon et le surréalisme.
Culture. Une voix sans mesure. Louis Aragon, 1897-1982. Revenons en novembre 1930. Louis Aragon, accompagné d'Elsa Triolet et de son ami Georges Sadoul, partent pour l'URSS à Kharkov, où ils participent à la conférence internationale des écrivains révolutionnaires. Je rappelle qu'Aragon et Sadoul signent là-bas un texte dans lequel ils se désolidarisent des positions politiques d'André Breton et de ses amis, que c'est là l'origine de la rupture qui surviendra entre eux 2 ans plus tard. Comment analysez-vous cette prise de position, Daniel Bougnou?
Qu'est-ce qu'a fait Aragon en URSS en 1930? Il a découvert un nouveau monde. Alors bien sûr, introduit par Elsa, c'est-à-dire par celle qu'il aime en 1930, il va, après le suicide de Mayakovsky à Moscou, retrouver Lili Bric, la famille de Mayakovsky. Il découvre la construction du socialisme en URSS. Et, bon, comme il le dira lui-même, il passe de l'autre côté du monde. Aucun des surréalistes qui vont signer le tract Payas n'est passé de l'autre côté du monde. Aucun n'a fait le voyage, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est pas les individus qui agissent là, ce sont des logiques historiques, ce sont des dislocations et des redistributions de blocs ou de cartes pour les individus. Mais Aragon passe dans le bloc, disons socialiste, communiste, soviétique. Mais en 1930, à ses yeux, c'est le bon choix. Pourquoi? Parce que le capitalisme fait faillite à l'Ouest, la crise de 1929, chômage, désorganisation, parce que la montée des périls en Allemagne devient évidente, n'est-ce pas? Le Troisième Reich arrive. Et qu'est-ce qui va arrêter cela? Sinon, aux yeux d'Aragon, la révolution communiste et la consolidation du communisme en URSS. Et donc, ils avaient aussi déjà, par héritage, disons, moral et politique, ils avaient aussi tous entendu et répété la leçon de Lénine, que la littérature qui n'est pas politique n'a pas de valeur, qu'il faut que le politique soit le critère même de ce qu'on écrit.
Que le politique soit au poste de commandement.
et que la révolution surréaliste soit au service de la révolution communiste. Le surréalisme au service de la révolution, ça veut dire quoi? Or, c'est le titre qu'ils prennent pour leur revue en 1930. Alors, il y a là des choix bon, qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui. Nous en parlons à notre aise. Évidemment, nous sommes dans une époque extraordinairement refroidie, individualiste, morale et pas politique, précisément.
Et consensuelle.
Et du même coup consensuelle et un peu tiède et un peu parfois désolante. Alors, on ne peut pas renvier non plus cette époque, qui est terrible, n'est-ce pas? On ne peut pas se remettre mentalement dans les conditions de ces hommes-là en 1930, mais l'Europe est déchirée. Nous sommes au cœur de l'entre-deux-guerres, et donc le souvenir de la Première Guerre pèse très fort, et la Deuxième Guerre se prépare, à l'évidence, pour des gens aussi lucides que Breton et Aragon. Et donc il faut choisir son camp. Et il faut savoir surtout comment peser le mieux sur l'événement. Comment être un écrivain responsable. Alors c'est vrai qu'Aragon est passé, disons, de l'engagement au militant. Et c'est pas la même chose. C'est pas un écrivain engagé, on pense à Sartre évidemment, on pense à Gide. C'est quelqu'un qui manifeste par son écriture, par sa plume, et qui prend parti. Mais ce n'est pas un homme d'appareil, c'est un intellectuel. C'est-à-dire qu'il est hors de l'appareil. Aragon a voulu être plus qu'un intellectuel engagé, il a voulu être un militant. C'est-à-dire, il a voulu pas seulement dire « je », il a voulu dire « nous ». Il a voulu être celui qui dit « nous ». Et ça, ça fait de lui un homme assez différent de Breton et des autres, parce que et de la plupart des intellectuels. Parce que l'intellectuel, au fond, il garde son quant à soi, il garde sa liberté ou sa conscience critique. Et Aragon, de cette manière, à s'aborder sa conscience critique.
Alors, pourquoi les prises de position politiques d'Aragon dans ce début des années 30, Philippe Solers?
Voilà quelqu'un, donc, qui vient, dit-il, de brûler une grande partie de ce qu'il a écrit, qui a tenté de se suicider parce que, qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de subsistance, et il va falloir aussi avoir une sorte de sécurité sociale. Il y a une lettre à Jacques Doucet, très très belle, de 1927, pour lui expliquer ce que c'est que la politique au moment où il lui parle, c'est-à-dire son mécène, où il est question des salaires, de la façon dont les gens vivent. C'est quelqu'un de très lucide, Aragon. Pas quelqu'un qui fait de la littérature comme ça, puis après on vit avec des rentes. C'est pas André Gide, c'est pas tout ça. C'est pas la NRF du tout. Donc, en 1929-30, basculement. Et là, la perspective, c'est quoi en France? Est-ce qu'il y a une perspective révolutionnaire? Oui, vous allez me dire, on va vers 34, 36, le Front Populaire, etc. Mais on connaît la suite, hein, 1940. Alors, voyons Aragon à Moscou. Ce surréaliste parmi les libertins, libertaires, qui va brusquement tourner à son contraire, c'est-à-dire ce que j'appelle la grande police du siècle. Aragon va devenir un des plus grands policiers du siècle. Tout simplement. Pourquoi? Mais, qu'est-ce qui lui arrive exactement? Si on est du mauvais côté de la société, c'est-à-dire pas vraiment récupérable par la bourgeoisie de son temps en France, c'est pas son cas. On ne peut pas aller faire des offres de service avec ce qu'il vient d'écrire et sa réputation. Je vous renvoie au Condirène, à la défense de l'infini, son dossier est déjà très épais. Mal vu. On ne peut pas se rendre à la bourgeoisie française. À Moscou, en revanche, si tu renonces à tes turlupinades surréalistes avec tes copains, tout ça, le marché est en bas. C'est-à-dire, c'est du pouvoir. Un pouvoir énorme. Le Parti communiste en 1927-1930 en France est une vaste plaisanterie, ça n'existe pas, du point de vue de la police. C'est rien.
Tout est à faire.
Bien sûr. Le pire reste à faire. C'est une construction. Quant aux différents groupes anarchistes, subversifs, au surréalisme lui-même qui commence à s'essouffler un petit peu, qui ne débouche pas vraiment sur l'action révolutionnaire, on peut suivre ça pas à pas, et ça peut se prouver dans les entretiens de Breton, dans tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Bon, donc voilà Aragon qui bascule dans la police mondiale. À partir de là, c'est un parcours du combattant. On va lui trouver une petite activité à l'Humanité, il va être pigiste de base, il va être ceci, cela, mais ça fait 27, 82, il meurt, c'est constant. Jamais il ne revient là-dessus. Alors de temps en temps, bien sûr, surtout vers la fin, quand la police de Moscou se montre plus faible, enfin plus critiquable, il décroche un peu. La grande période, c'est évidemment les années 50, on atteint les sommets d'auto-aveuglement voulu. Enfin, c'est tout à fait volontaire. Mais revoyons ça. Aragon devient un policier soviétique, c'est le mot, en 1930. En 1933, Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. On va pas dire à ce moment-là que l'urgence apparente. Il y a d'autres urgences pendant ce temps-là aussi. C'est comme ça qu'on se raconte l'histoire. Mais enfin, ça n'a pas l'air de lui donner tort. L'Union soviétique change de politique. C'est comme ça qu'on va arriver au Front populaire. Ça ne semble pas lui donner tort. Le Parti communiste est très bénéficiaire de cette opération 36. Très. Là, il commence à exister très fort. 1940, la défaite, ça ne semble pas lui donner tout à fait tort non plus. Ce sera le parti des fusillés, etc. Ça sent que la légende commence. Là-dessus, on peut faire de la poésie patriotique, etc. Plus ou moins réussi, peu importe, des chansons après la guerre. Enfin, puis des romans plus ou moins réalistes, les communistes, quelle barbe. Bon. Ensuite, on est après la guerre. Donc, il faut reconstruire. Donc, on n'est pas dénoncé comme ayant été du mauvais côté de l'histoire. Enfin, après tout, Staline était bien l'allié des Américains, des Anglais. Enfin bon, c'est quand même Stalingrad, le parti des fusillés à partir de ce moment-là. Donc, énorme légende. Évidemment, vous allez me dire, ça commence à se fissurer un peu après, parce que l'histoire est têtue, elle avance. Comme ça. Mais c'est très tardif. Et dans la dernière période, en effet, il y a une tentative de rétablissement. Et là, il y a un certain nombre de romans qui mi-chou, mi-chèvre, mi-lyrique, où il essaye de retrouver. D'ailleurs, c'est très fréquent, les textes qu'il écrit à ce moment-là, c'est par à l'autre et à mon. Il se rappelle, ça le met. Et alors, si je m'étais trompé, alors maintenant, bon, on pourrait rester très longtemps là-dessus, point par point, année par année, avec les rapports, avec la peinture, des histoires, le portrait de Staline, patati patata.
Mais
pour revenir à l'essentiel, ce que je considère, moi, comme étant l'essentiel, personne ne se demande vraiment, parce que tout de suite les considérations deviennent trop politiciennes, politiques, au sens étroit. Personne ne se demande vraiment qu'est-ce qui pouvait brûler les mains d'Aragon dans ce qu'il était en train de faire entre 1924 et 1928. C'est-à-dire ce qu'il a réellement fait avec son corps et avec son écriture. Une des plus adaptées à la liberté concrète qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que la femme française, que la défense de l'infini, que le paysan de Paris. Il n'y a pas mieux. Il y a d'autres choses très importantes, mais il n'y a pas mieux sur le plan de la liberté individuelle, proposée par un corps masculin. Et alors, ce corps masculin, il s'est inversé. Il a été inversionné. Et c'est la question qui devrait nous retenir. Autrement dit, la question fondamentale, ce serait, au lieu d'appliquer tout le temps cette vision messianique, théologique de l'histoire, scolairement apprise, rabâchée par les militants et le crétinisme militant depuis des siècles, il faudrait considérer à quel moment ça respire, à quel moment ça s'étouffe. Entre telle et telle année, grande liberté. Par exemple, entre 1966 et 1972, avec 68 comme pointe. Grande liberté, énorme liberté. Avant, un peu après, et puis, boum, plus rien. Entre 1921, deux ans après la guerre, et 1929-30, énorme liberté, énorme. La preuve, Aragon. Notamment, pas que lui. Il y a Picasso aussi, un autre genre, tiennent la route. Mais ces textes-là d'Aragon, ils sont très, il faut les lire à haute voix, pour voir jusqu'où ça va. Il faut s'habituer à penser l'histoire comme ça. Diastole, systole, respiration, étouffement, liberté, répression. Dans ce cas de figure, au laboratoire, si on se débarrasse de toutes les versions stéréotypées, l'animal Aragon, il faut le placer sous microscope et faire des coupes. Et alors ça gênerait tout le monde. Ça gêne les staliniens et leur histoire, et pour cause. Ça gêne les académiciens qui l'ont relayé dans une restauration de je ne sais quel génie français éternel. Ça gêne les trotskistes parce que c'est le diable, ou les gauchistes parce que c'est vraiment le traître absolu. Ça gêne les... Voilà, tout le monde est d'accord pour, au fond, qu'on évite de le mettre sous microscope. Alors mettons sous microscope la défense de l'infini et voyons qui est capable aujourd'hui. Ben, il faut des noms. Il faut que ça puisse juger notre temps. Qui est capable aujourd'hui d'écrire des choses comme ça, c'est-à-dire d'avoir l'expérience concrète de telle situation qui permet d'écrire des choses comme ça. Et alors ça va être accablant. Parce que si j'ouvre La Défense de l'Infini et je compare ça aux livres qui paraissent, je vais trouver que c'est pas possible, qu'on est dans une situation hyper merdique. Naturaliste, populiste, banlieusarde, déprimé, étriqué, etc. Je trouve ça d'une liberté splendide. Donc, pour juger de la régression qui est la nôtre, Aragon 1927, c'est parfait.
Une douceur pour mon chien, un doigt de champagne. Bien, madame, nous sommes chez Maxime, l'an 1930. On met des tapis sous les bouteilles pour que leur cul d'aristocrate ne se heurte pas aux difficultés de la vie. Des tapis pour cacher la terre, des tapis pour éteindre le bruit de la semelle des chaussures des garçons. Les boissons se prennent avec des pailles, délicatesse. Il y a des fumes-cigarettes entre la cigarette et l'homme, des silencieuses aux voitures, des escaliers de service pour ceux qui portent les paquets, et du papier de soie autour des paquets, et du papier autour du papier de soie, du papier tant qu'on veut. Cela ne coûte rien, le papier, ni le papier de soie, ni les pailles, ni le champagne, ou si peu, ni le cendrier, réclame, ni le buvard, réclame, ni le calendrier, réclame, ni les lumières, réclame, ni les images sur les murs, réclame, ni les fourrures sur madame, réclame, réclame les cure-dents, réclame l'éventail et réclame le vent. Rien ne coûte rien et pour rien, des serviteurs vivants vous tendent dans la rue des prospectus. Prenez, c'est gratis. Le prospectus est la main qui le tend. Ne fermez pas la porte, le Bloun s'en chargera. Tendresse, jusqu'aux escaliers qui savent monter seuls dans les grands magasins. Les journées sont de feutre, les hommes de brouillard. Monde ouaté, sans heurts. Vous n'êtes pas fou ? Des haricots ? Mon chien n'a pas encore eu la maladie. Oh, pendulette, pendulette. Avez-vous assez fait rêver les fiancés sur les grands boulevards ? Et le lit Louis XVI avec un an de crédit ? Dans les cimetières, les gens de ce pays si bien huilé se tiennent avec la décence du marbre. Leur petite maison ressemble à des dessus de cheminée. Combien coûtent les chrysanthèmes cette année ? Fleurs aux morts, fleurs aux grands artistes. L'argent se dépense aussi pour l'idéal. Et puis les bonnes œuvres font traîner des robes noires dans des escaliers. Je ne vous dis que ça. La princesse est vraiment trop bonne. Pour la reconnaissance qu'on vous en a, à peine s'il vous remercie, c'est l'exemple des bolcheviques. Malheureuse Russie. L'URSS, ou comme ils disent, SSSR, SS, comment est-ce ? SSS, SSR, SSR, SSSR, oh ma chère, pensez donc SSSR. Vous avez vu les grèves du Nord ? Je connais Berck et Paris-Plage, mais non les grèves, SSSR, SSSR, SSSR. SSSR.
Donc au début des années 30, Aragon a à reconstruire les choses.
Olivier Barbaron.
Et il le fera notamment en réfléchissant, comme le fait Breton d'ailleurs à la même époque, à l'importance de l'inscription historique de la poésie, et une influence déterminante va se faire. 1928 est une date très intéressante de ce point de vue. C'est à la fois la parution de La Grande Gaieté et c'est en même temps la rencontre de Maïakovski.
Via Elsa Triolet.
Via Elsa Triolet, où Aragon est un peu confus, si mes souvenirs sont bons là-dessus. Il dit qu'il a rencontré Mayakovsky la veille de sa rencontre avec Elsa Triolet, mais il va de soi que c'est quand même via Elsa Triolet, puisque c'est par Elsa Triolet que le rapport se fera plus intime. Peu de temps, puisque Mayakovsky meurt en 1930, ils ne se sont pas beaucoup connus, mais l'amour que porte Elsa Triolet à Mayakovsky, sa grande connaissance de l'œuvre, et puis la recherche dans laquelle est Aragon d'un renouvellement de sa poésie, font que Aragon va tenter de construire, et c'est une expérience assez originale aussi, un futurisme à la française, à mon sens. Et ce futurisme va donner lieu à des poèmes compliqués, c'est vrai, mais intéressants, que sont ceux de Front Rouge, Oural Oural.
Bon, ça c'est la poésie franchement communiste et franchement militante d'Aragon. D'ailleurs, j'ai été très surprise en la redécouvrant. Elle est très belle, cette poésie, finalement.
Cette confrontation à l'histoire en poésie, elle est sans doute déterminante aussi dans la volonté d'Aragon de participer concrètement à l'histoire de son temps. C'est d'autant plus vrai, ce qu'on pourrait appeler la détermination esthétique à la carrière politique d'Aragon, qu'il me semble que tout Aragon tient dans un conflit entre le trop-plein d'énergie qui casse les choses et la nécessité d'un cadre qui contienne cette énergie. Et de même qu'il va aller chercher plus tard les formes
fixes. Vous pensez que le PCF serait au fond ce cadre qui contiendrait l'énergie? Vous êtes en train de dire quelque chose, là je simplifie à l'extrême, mais vous êtes en train de dire qu'il est rentré au PC pour pas devenir fou?
Oui, je pense que, aussi provocante soit la formule, c'est assez juste. Pour ne pas marcher dans ce qu'il appellerait des pas de brouillard, pour ne pas être saisi dans des colères qui ne se traduisent pas aussi. On peut dire les choses concrètement.
Oui, disons-les.
La révolte surréaliste avait, aux yeux d'Aragon, montré aussi son impasse. On peut dire, de ce point de vue, qu'il y a une énergie de la révolte et qu'il cherchait le sens à lui donner en l'inscrivant concrètement quelque part. Mais c'est vrai aussi que, plus profondément, Aragon a besoin, non pas d'une discipline, non pas d'une dictature, hein, le rapport au père, à la loi serait un peu simpliste, mais a besoin de cadres dans lesquels il puisse inscrire cette espèce de trop-plein de vitalité. Et il me semble que l'apprentissage de la discipline, et Dieu sait ce que c'était que la discipline du parti quand Aragon y est rentré à la fin des années 20. Ce n'était même pas le parti de ce qu'on peut appeler le stalinisme ultérieur. C'était le parti sectaire, le parti minoritaire sur lequel on a su que les surréalistes devaient, par exemple, faire des rapports concrets sur, lorsqu'ils y sont entrés, la situation économique de telle et telle chose. Alors, les autres surréalistes rentrés avec Aragon sont partis. Aragon, c'est soumis, mais cette soumission, hein, entendons-nous bien, c'est soumis à une discipline, à une organisation, parce que je crois qu'il en avait effectivement besoin. Le risque de la folie est quand même, pas en termes psychiatriques, mais en termes folie un peu métaphorisée comme ça, quand même un risque réel, enfin d'explosion ou d'éclatement. Il apparaît en permanence chez Aragon, et il faut quelque chose qui recentre, qui resserre.
En tout cas, sa poésie, à partir des années 30, va thématiser la révolution, ça de toute façon, et la défendre. Donc c'est une poésie très, très singulière, c'est une poésie militante, voilà.
Absolument militante, plus intéressante, je crois, parce qu'elle détruit que parce qu'elle construit.
Ah tiens, expliquez-vous.
J'aime beaucoup l'ironie acerbe, la critique sans doute sommaire, mais très amusante, où Aragon est brillant, de la bourgeoisie, les personnages qui sont des personnages quasi mythologiques, des gens sortant de chez Maxims.
Oui.
Tout ce qui est la rage et la colère me paraît bon. En revanche, c'est vrai que la tentative de restituer l'élan ne va pas sans quelques naïvetés qui font de temps en temps s'effondrer l'énergie. Comme tout Aragon tient dans l'énergie, il me semble qu'il a une énergie qui est plus forte à cette période, dans la critique et dans la colère, que dans la tentative de la louange, qui me paraît plus plaquée, plus lourdaude parfois.
Oui, on pourrait peut-être reparler de Front Rouge, parce qu'effectivement, il y a quand même. C'est vrai qu'il y a de la poésie ringarde hein, chez Aragon, on ne peut pas dire le contraire, notamment enfin sa grande période militante. Et tout se passe comme si cette ringardise allait redistribuer des cartes, des forces, des tentatives nouvelles.
En effet, Aragon travaille vraiment à nu. Et on a pu beaucoup se servir du fait que tous les effondrements, les moments médiocres sont visibles chez lui et on pouvait les lui renvoyer en pleine face dans une espèce de jeu polémique. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point, en effet, Il publie et on peut voir les moments d'arrêt, les impossibilités, les crises. Et les crises sont données dans une recherche toujours plus vaste qui a conscience d'être toujours une trajectoire. Si bien qu'on ne peut pas lire ses textes en oubliant que le travail d'Aragon s'inscrit dans la durée et qu'il a conscience d'être à la recherche de quelque chose.
Alors, il y a la grande découverte d'emblée des poèmes du monde entier, des poèmes russes. Hein. Il s'internationalise tout de suite, Aragon. Enfin, d'ailleurs, il l'était déjà avant, internationaliste.
Oui. Dans un premier temps, vers le futurisme, les enjeux de la poésie russe. Et puis, au fil des années 30, on verra cette internationalisation, effectivement, qui existait dès le début de l'œuvre d'Aragon, s'intéresser à des contemporains et à des contemporains saisis par les mêmes problèmes que lui. Ce sera ensuite l'Espagne, par exemple, et tous les pays où le fascisme s'est posé de façon concrète un peu avant la France. Aragon ira chercher chez ses amis poètes les moyens de voir comment eux, poètes modernes, contemporains, ont aussi répondu à la situation historique. Et au fil des années 30, fidèle d'ailleurs à la logique de ces années 30 du point de vue historique, on voit Aragon s'élargir, s'épanouir de plus en plus vers une sorte d'international de la culture, qui correspond assez bien d'ailleurs au travail militant qu'il accomplissait dans le même temps.
Oui.
Il ne faut pas oublier qu'en plein cœur des années 30, il y a quand même 5 ans de silence de publications poétiques, sur lesquelles Aragon dit qu'il a continué à écrire, mais qu'il était trop insatisfait de son écriture pour pouvoir la publier. 5 ans donc de recherche souterraine, où il s'alimente à toutes les sources contemporaines, où il regarde ce que font des Raphaël Alberti, ce que peut faire un Neruda, en même temps que ce qu'a fait Mayakovsky, et il va s'incarner ensuite dans un certain nombre de thèmes qui ne sont pas forcément choisis par lui. Il y a quand même la poigne de l'histoire, hein, pas du tout de la moindre commande, mais la poigne de l'histoire qui vient mettre Aragon à la table, à l'atelier poétique, en 1939. Et il n'est pas la question de politique, ou alors de politique au sens noble, il est la question de raconter sa guerre dans le Crève-Cœur, de parler un peu d'Elsa déjà, et puis ensuite d'essayer de faire de la poésie un moyen de lutte, c'est vrai. Il l'a défini comme cela, via la poésie de la résistance.
En fait, vous savez, je m'étais toute la vie juré une chose. Après la guerre de 14-18, j'ai ressenti comme une humiliation que je partageais le fait que le peuple français ait pu laisser s'établir la guerre de 14-18 sans avoir protesté contre, ou enfin n'y avoir apporté à cette protestation que de très faibles forces. Je m'étais juré que si mon pays devait être entraîné dans une nouvelle guerre de ce caractère, au moins quelqu'un dans mon pays élèverait la voix contre. Et la forme que ma poésie a pris était une forme destinée à être entendue par un plus grand nombre de gens possible. En essayant de baser mon expression sur les formes profondément nationales de la poésie française. Cela a servi à quelque chose, car de cette poésie qui commence dès la drôle de guerre est née, je peux le dire, sans me vanter particulièrement, ce qu'on a appelé ensuite la poésie de la résistance. Et c'est de là, de ce fait que je m'étais dit qu'on ne pourrait pas recommencer le coup du roman contre la guerre, parce que on était prévenu du fait que dans la guerre de 14-18, il y avait eu le feu d'Henri Barbusse. Tandis que je m'attendais à pouvoir ainsi surprendre le pouvoir public qui pourrait s'y opposer. Et effectivement, je suis arrivé à surprendre le pouvoir public de Vichy, qui ne croyait pas que des vers patriotiques pouvait être une arme pour lui dangereuse, et qui ont fait que j'ai pu, jusqu'à l'automne de 1942, vivre légalement, quoique lié au mouvement de résistance, quoique dans ma poésie légale comme illégale, j'avais exprimé de mon mieux la résistance de notre peuple l'occupant.
pour le vent, bon pour la nuit, bon pour le froid, bon pour la marche et pour la boue et pour les balles, bon pour la légende et pour le chemin de croix, bon pour l'absence et les longs soirs, drôle de bal, où comme j'ai dansé petit, tu danseras sur une partition d'orchestre inhumaine. Bon pour la peur, pour la mitraille et pour les rats, bon comme le bon pain, bon comme la romaine. Mais voici se lever le soleil des conscrits, la valse des 20 ans tourne à travers Paris. Bon pour l'agneau à l'aube et l'angoisse au créneau, bon pour l'attente et la tempête et les patrouilles, et bon pour le silence où montent les signaux, la jeunesse qui passe et le cœur qui se rouille, bon pour l'amour et pour la mort, bon pour l'oubli dans le manteau de pluie et d'ombre des batailles, enfants soldats roulés vivants sans autre lit que la fosse confie d'avance à votre taille. La valse des 20 ans traverse les bistrots, éclate comme un rire aux bouches du métro. Ô classe d'autrefois, rêves évanouis, 15, 16, 17, écoutez, ils fredonnent comme nous cette rengaine, et comme nous y croient, et comme nous, alors le ciel leur pardonne, préfèrent à leur vie un seul moment d'ivresse, un moment de folie, un moment de bonheur. Que savent-ils du monde? Et peut-être vivre, est-ce tout simplement, maman, mourir de très bonne heure? Bon par-ci, bon par-là, bon, 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 je pars, mes chers amis, 20 ans, bon pour le service armé. Ah, la valse commence, et le danseur, selon la coutume, achète au camelot brun des broches. Mais chante cette fois la fille à Madelon. J'ai 40 ans passés, leurs 20 ans me sont proches. Boulevard Saint-Germain et rue Saint-Honoré, au revers chamarré de la classe 40. Le mot « bon » se répète en anglaise dorée. Je veux croire avec eux que la vie est marrante. J'oublierai, 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 j'oublierai. La valse des 20 ans m'entraîne, j'oublierai. Ma quarantaine en l'an 40.
Le nom d'Aragon va devenir une emblématique de la poésie de la Résistance.
Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on se souvient beaucoup de la poésie de la Résistance par ses thèmes. Là encore, elle devient tout à fait intéressante quand on la regarde chez Aragon fonctionner par son écriture. C'est encore une écriture en recherche. Cela paraît peut-être paradoxal, puisqu'on se souvient un peu trop d'alexandrins qui sont parfois ronflants, de certains ratages poétiques, mais il est évident qu'Aragon joue de l'intertextualité, comme on dirait aujourd'hui, réfléchit à l'inscription de la chanson, s'intéresse à la question de savoir si on peut combiner, non pas du folklore, le mot fait pétainiste, mais de la tradition populaire avec des formes savantes, revient sur les traces poétiques du Moyen-Âge et fait là encore un objet qui, à première vue, paraît un objet simple, un objet effectivement défini simplement par son thème politique, mais où Aragon demeure un écrivain moderne, parce qu'il est véritablement dans un laboratoire, dans une exploration de comment construire cette poésie de la Résistance.
Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si je t'ai à mourir, tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire.
Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur, tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit, tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure.
Mère de cette douleur, aux lumières mouillées,
sept glaives ont percé le prisme des couleurs.
Le jour est plus poignant qui pointe entre les pleurs. L'iris troué de noir plus bleu d'être endeuillé.
Dans les années 40, Elsa devient, dans la poésie d'Aragon, un thème de la résistance. Dominique de Santi, vous avez écrit sur Elsa, elle était comment ?
Elle était extraordinairement raffinée dans sa mise.
Très jolie.
Exigeant l'adulation de tout le monde. J'aime pas l'idolâtrie. Je suis partie dans cette biographie pour essayer d'éclaircir pour moi-même les rapports de ce couple.
Oui.
Cette adoration, il ne met Paris que d'Elsa, le fou d'Elsa. Et d'autre part, il n'est pas d'amour heureux. Et je voulais savoir ce qu'il en était vraiment et si l'on pouvait tellement proclamer un sentiment en l'éprouvant vraiment, ou si un sentiment à ce point proclamé n'était pas obligatoirement factice. Et alors là, j'ai beaucoup mieux compris Elsa, parce qu'elle a eu de très grandes difficultés dans les premières années avec Aragon. D'abord parce qu'Aragon était très instable, qu'il ne voulait pas se laisser prendre dans la nasse d'une union quasi-conjugale, même avant le mariage, et il disparaissait. Elle envoyait des émissaires, Georges Sadoul, Jean Babi,
pour le retrouver.
Ah. Elle écrivait des pneumatiques, essayait de le retrouver, il est capable de se suicider toujours. Et on le retrouvait très à l'aise, s'étant simplement dégagé d'une union trop pesante. Et ensuite, j'ai découvert, mais assez récemment finalement, quelque chose, c'est que c'est bien elle, naturellement, qui l'a amené vers Moscou et qui l'a consolidé dans un communisme qui le tentait. Mais il avait bien une carte, mais c'est tout.
Mais elle n'en avait pas.
Elle n'en avait pas. Elle le consolidait dans le communisme pour se l'attacher. Elle l'a amené à Moscou parce qu'elle savait bien que cette atmosphère d'intellectuel russe, fiévreux, ardent,
lui
passionné,
lui plairait énormément.
Et que lui aurait un succès fou auprès d'eux, ce qui est arrivé. Mais ensuite, elle a été complètement dépassée parce qu'elle n'avait pas calculé avec le fanatisme d'Aragon. Avec sa manière de se jeter dans l'eau glacée et de nager dans les eaux glacées. Et alors lui s'est épris de ce pays précisément parce que c'était quelque chose de complètement surréaliste pour lui. Même la misère n'était pas celle qu'il connaissait en France. Tout était différent. Et alors il est allé jusqu'à des extrêmes qui faisaient frémir naturellement l'entourage d'Elsa qui savait de quoi il retournait, criant « Oural, Oural », bon ça très bien, mais disant aussi « Et s'il le faut, crions « Vive le Guépéou ». Alors oui. Ça faisait trembler évidemment tous les intellectuels, et d'ailleurs non intellectuels soviétiques, ils ne pouvaient rien dire, ils ne pouvaient pas dire « Arrête-toi », parce que ça aurait pu être mal rapporté, mal interprété, mais Lili Bric, qui prétend qu'elle disait déjà au moment des procès de Moscou, comme Aragon lui disait, mais il faut envoyer une lettre à Staline, il faut l'avertir. Elle prétend déjà avoir pensé et avoir murmuré, mais enfin c'est impossible de bouger parce que le prochain coup, ça sera nous, on va être arrêtés et peut-être fusillés nous aussi, parce qu'Aragon était complètement au-delà. Pour lui, Staline, c'était vraiment le plus juste des hommes. Ce qui se passait en URSS, c'était grandiose. Et les erreurs ne pouvaient être que des erreurs judiciaires qui devraient être réparables. Alors, Elsa ne pensait pas ça.
Non, elle avait d'ailleurs fui l'URSS. Elle était partie, elle avait épousé Triolet pour partir, justement.
Elle n'était pas du tout dedans, oui. Oui. Elle était en marge. Elle était pour les futuristes, pour tout ce qui se faisait de nouveau.
Mouvement d'avant-garde.
Voilà, elle était pour l'avant-garde, mais elle avait très peur de tout. Et puis, elle trouvait que c'était profondément inconfortable, qu'il n'y avait pas moyen d'avoir ni de savon, ni quoi que ce soit. Et quand elle a pu partir pour rejoindre André Triolet, elle est partie très vite.
Voilà.
Et par conséquent, elle savait à quoi s'en tenir. Elle a été un peu affolée, mais d'un autre côté, elle savait très bien que si Louis rentrait, devenait un militant du Parti communiste, il resterait avec elle. Et elle a joué ce jeu-là. Parce que elle, je crois qu'elle était vraiment amoureuse.
Lionel Follet.
Oui, je suis content de dire quelques mots peut-être d'Elsa Triolet pour dissiper quelques légendes et pour en dire du bien quand on en dit tant de mal. Quelques légendes très rapides. D'abord, Elsa Triolet n'a jamais été membre d'aucun parti communiste, ni français, ni soviétique. Elle était solidaire de son peuple, de son pays, c'est une autre histoire.
Elle est d'ailleurs partie du RSS au moment où les choses commençaient à aller un peu mal.
Elle est partie en 1917.
Elle a épousé un officier français.
Exactement, Monsieur Triolet. À qui elle doit son nom. Elsa Triolet n'était pas non plus, comme on l'a dit, mais c'est grotesque, une espionne du NKVD ou GPU, je ne sais plus, la version de l'époque. Je le répète, elle était une patriote, certainement, de son peuple. Elle était liée à l'avant-garde intellectuelle de son peuple, et ça, c'est important. Elle était donc la sœur de Lili Bric, et c'est elle qui avait découvert Maïakovski, ce jeune poète futuriste révolté avec sa fameuse blouse jaune. Elsa Triolet est un écrivain qui a commencé par écrire en russe et qui est passé au français. C'est quand même quelque chose d'assez rare, même si des écrivains comme Conrad, comme Beckett, comme Nabokov, etc., l'ont réalisé dans d'autres langues, qui est devenu écrivain en français, un écrivain qui a toujours eu son public. Et ici, j'affirme nettement, ça n'est pas un public de midinette. Ça n'est gentil ni pour les midinettes ni pour Elsa Triolet que de la traiter ainsi.
Dites-moi, Lionel Follet, une chose quand même me frappe, c'est que dans toute l'œuvre d'Aragon, il y a, peut-être pas dans les œuvres de jeunesse, mais en tout cas à partir d'un certain moment, des allusions absolument exquises d'ailleurs aux enfants. Tout d'un coup, il y a des enfants qui chantent ou des enfants qui sont évidemment mal compris par les adultes. Il connaît bien ce rapport-là entre les adultes un peu stupides qui éduquent l'enfant et l'enfant, au fond, qui est une figure de la liberté aussi pour Aragon. Il y a des rires d'enfants, il y a des comptines. Alors, est-ce que vous avez une idée des raisons pour lesquelles Aragon et Elsa n'ont pas pu avoir d'enfants?
Ah oui, cela c'est très clair. Bon, je fais tout de suite écho à ce que vous disiez. Je crois qu'il a avec les enfants une proximité.
Oui,
il a gardé un esprit d'enfance. Il a une complicité avec les enfants. Il les peint de façon extraordinaire. Alors, en ce qui concerne le désir de paternité éventuelle, autant du surréalisme, il a tonné contre la paternité, mais c'était la mode dans le groupe, bien entendu. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça n'est pas un secret. Elsa Triolet ne pouvait pas avoir d'enfants.
C'est des avortements qui ont mal tourné.
Un avortement qui a mal tourné, tout simplement, qu'Elsa avait subi très jeune. Elsa était stérile, elle vivait très douloureusement, au point que pendant la guerre d'Espagne, alors qu'on sentait qu'approchait la guerre mondiale, Elsa Triolet voulait à tout prix adopter un enfant espagnol orphelin, et qu'Aragon a eu beaucoup de mal à l'en empêcher en lui remontrant que ce serait bientôt la guerre et qu'il porterait la responsabilité d'un enfant sans savoir ce qui allait se passer.
Olivier Barbaran.
Il ne parle pas d'Elsa dans des poèmes des années 30, sinon quelques textes qu'on a retrouvés, en tout cas pas de façon publiée, c'est après qu'on les a publiés. Et il parle d'elle dans le Crève-Cœur, c'est-à-dire au moment où la guerre les a séparés, en dédiant le Crève-Cœur à Elsa Triolet, et aussi avec un dernier poème, Elsa, je t'aime. Et puis, elle apparaît en 42 sur la couverture, non plus seulement dans un texte, mais sur la couverture avec les yeux d'Elsa. Elsa donc arrive dans la poésie d'Aragon au moment où se construit la poésie de la résistance. Et elle en deviendra bientôt un emblème et un symbole. La poésie deviendra en fait, Aragon peut le dire, parole d'Elsa par exemple. Elle a servi à la fois de thème pour construire une parole poétique, mais Aragon n'a jamais caché, si on reprend les yeux d'Elsa, le cantique à Elsa à la fin des yeux d'Elsa, il explique que cette poésie est une mythologisation d'un personnage, puisqu'il se met en compétition, rien que ça, avec Ronsard, Lamartine, Maïakovski aussi, pour construire un discours amoureux moderne.
C'est la Béatrice d'Aragon.
Oui, c'est la Béatrice d'Aragon dans un premier temps. Il essaiera ensuite de dépasser justement la mythologie qu'il a mise en place, fidèle en cela à son activité, je construis quelque chose, je le casse, et de dépasser le mythe d'Elsa, sous la pression en partie d'Elsa, qui était tout sauf satisfaite de cette inscription de son nom pour la construction d'un personnage poétique qui a parfois des allures d'idole.
Oui. D'abord, c'est un geste d'écrivain, hein, ça, très très typique. Quand on aime les femmes, on les aime, pas pour elles d'ailleurs, mais pour les mettre dans son écriture. C'est la cruauté des écrivains.
D'autant que dans la poésie, Elsa apparaît dans le couronnement de son propre nom. La fin des yeux d'Elsa, le cantique à Elsa, le dernier moment, qui est très beau d'ailleurs, où Aragon arrive là encore à quelque chose de très original, qui est l'inscription de la valse dans l'Alexandrin,
oui.
Qui est une nouveauté. Elsa valse, le titre dit bien qu'Elsa est d'abord une cellule sonore,
voilà.
Ce E, ce L, ce S, et qu'il jouera de façon très... très typique du discours amoureux, mais d'une façon qui évacue en partie la personne au profit de la gloire d'un nom. Mais Elsa est également, je pense, dès le début du mythe d'Elsa, ou du cycle d'Elsa, comme on voudra, Elsa est aussi le nom propre de l'amour. S'il évacue la personne Elsa, c'est aussi la mise en avant de l'amour qui était, là encore, une valeur, la mise en avant de la femme aussi et de la féminité, qui avait une pertinence historique. Au départ, Elsa surgit donc sur fond de guerre, comme emblème, non pas tant de la France comme on a pu le dire, et encore, faire d'une femme juive l'emblème de la France en pleine Deuxième Guerre, c'était tout à fait intéressant, mais oui. Aussi comme emblème de certaines valeurs incarnées par la féminité. Elsa, c'est la féminité, et je crois, je ne suis pas d'ailleurs le seul à le dire, que le rapport au féminin d'Aragon est tout à fait déterminant, et que le nom d'Elsa résume aussi la tentation de la féminité. Le paradoxe du discours amoureux d'Aragon, c'est que si Elsa est aussi l'emblème du féminin, qui est une sorte de désir ou de délire fantasmatique d'Aragon lui-même, mais qu'il voudrait assumer par lui-même, c'est là le paradoxe de la place d'Elsa. Le féminin aimante le désir d'Aragon, s'inscrit dans son écriture comme une espèce d'idéal de l'écriture. La jouissance féminine est l'emblème peut-être de toute jouissance poétique pour lui, alors qu'il dévalorise la jouissance masculine, mais du coup, il occupe la place du féminin. Donc la pauvre Elsa est un nom, mais elle est toujours un emblème puisque c'est lui qui occupe toutes les places.
Qu'ai-je en moi qui me mord, ce monstre, ce cancer ? Au fond de moi, par moi vainement étouffé, je le sens par moments me monter, par bouffer, c'est comme un autre en moi qui donnerait concert, c'est un autre moi-même, un autre furieux, qui ne m'écoute pas terrible et me ressemble. Il faut coûte que coûte avec lui marcher l'amble, je déborde d'un chant sublime, impérieux. Un chant qui se soucie aussi peu de moi-même que la flamme de l'âtre ou du rideau, le vent, l'ivresse du buveur, la balle du vivant. Un chant qui fait sauter les gonds de mes poèmes, un chant portant la nuit de l'aigle sur sa proie, un chant d'incendie à l'heure de la grand-messe, derrière lui par les moissons que rien ne laisse. Un chant comme la peste, toujours à l'étroit. Un jour, Elsa, mes vers qui seront ta couronne et qui me survivront d'être par toi portés, on les comprendra mieux dans leur diversité par ce reflet de toi que tes cheveux leur donnent. Un jour, Elsa, mes vers en raison de tes yeux pénétrants et doux qui survoient demain comme personne au dernier feu du soir. Un jour, Elsa, mes vers, on les comprendra mieux. Alors on entendra sous l'accent du délire, dans les aveugles mots, les cris de déraison, par cet amour de toi sourdre la floraison des grands rosiers humains promis à l'avenir. Alors on entendra le cœur jamais éteint, alors on entendra le sanglot sous la pierre que l'on verra saigner où s'attacha mon lierre. On saura que ma nuit préparait le matin. Un jour, Elsa, mes vers monteront à des lèvres qui n'auront plus le mal étrange de ce temps. Ils iront éveiller des enfants palpitants d'apprendre que l'amour n'était pas qu'une fièvre, qu'il n'est pas vrai que l'âge assurément le vint, que jusqu'au bout la vie et l'amour c'est pareil, qu'il y a des amours noués comme une treille, tant que la veine est bleue, il y coule du vin. Un jour, Elsa, mes vers que leur ajouterai-je, d'autres qui les liront le diront après nous. Mon bras est assez fort pour lier tes genoux. Ne compte pas sur moi que l'étreinte s'abrège. Il n'est plus de saison pour la rose, vois-tu. Car ceux-là qui vont lire un jour, Elsa, mes vers, n'y peuvent séparer ton nom de l'univers. Et leur bouche de chair, modèle de ta statue.
Une chanson qui dit un mal inguérissable, plus triste qu'à minuit la place d'Italie, pareil au point du jour pour la mélancolie, plus de rêves aux doigts que le marchand de sable, annonçant le plaisir comme un marchand d'oubli. Une chanson vulgaire et douce où la voix baisse comme un amour d'un soir doutant du lendemain. Une chanson qui prend les femmes par la main. Une chanson qu'on dit sous le métro Barbès et qui change à l'étoile et descend à jasmin.
Une voix sans mesure. Louis Aragon, 1897-1982, première partie, Faites entrer l'infini. Avec Dominique de Santi, Jean Rista, Yannick Hennel, Marc Dachy, Daniel Bougnou, Olivier Barbaran, Lionel Follet, Philippe Solers, Georges Sebag, André Thirion. Et la voix de Louis Aragon, archivée par Lina.
C'est de ce Paris-là que j'ai fait mes poèmes. Mes mots sont la couleur étrange de ces toits, la gorge des pigeons, Iroukou, les chatois. J'ai plus écrit de toi, Paris, que de moi-même.
Texte lu par Jean-Pierre Cassel.
Souffert d'être sans toi.
Merci au service de documentation de Radio France avec une mention spéciale pour le cahier Aragon. Merci également à Sophie Joubert.
Ignore ce que c'est que ce déchirement.
Mixage Agnès Warnier. C'était une émission de Christine Goémé, mise en onde par Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet.
Et Notre-Dame sort des eaux.
C'était Une voix sans mesure, Aragon, 1897-1982, première partie, Faites entrer l'infini. Une émission proposée par Christine Goémé. Première diffusion le 16 août 1997 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.